On n'y pense pas de prime abord, mais être illettré, c'est être à la merci des personnes de votre entourage qui, elles, savent lire et écrire. Dans l'épisode précédent, Aline Le Guluche, ex-illettrée aujourd'hui autrice de l'ouvrage « Mon combat contre l'illettrisme », témoigne du manque d'empathie dont elle a pu souffrir, notamment de la part d'un ex-conjoint, avant de vivre son envol.
J'aurais aimé, franchement, que quelqu'un me prenne par la main lorsque je me suis mariée la première fois. Que, voilà, ils me prennent par la main et qu'ils me disent « bah tiens, je vais t'aider, tout simplement, je vais t'aider. Je vais trouver des gens, si tu veux pas que ce soit moi, mais au moins je vais respecter ça et je vais t'aider. Je vais t'aider à évoluer. » Bon, ça m'est pas arrivé.
Heureusement, avec Anthony, également ex-illettré, nous avons vu qu'on peut obtenir du soutien en poussant les bonnes portes.
Franchement, faut bouger. Comme moi j'ai fait, j'ai eu peur, je l'ai fait. Et il faut faire les choses parce que sinon ça n'arrivera pas tout seul. Non, je dis aux personnes, bah faites-le, continuez, allez ouvrir les portes, allez voir les associations, demandez de l'aide. Les gens dans les associations sont pas là pour vous se moquer de vous, sont là pour vous aider. Ils vont bien vous accueillir. Ils sont pas là pour vous juger. Ils sont là pour vous aider. Et justement, avec de l'aide, on arrive à beaucoup de choses.
Je suis Marielle Lieberclair, passionnée de langue française et de lecture. Ma quête, mieux comprendre les enjeux psychologiques et sociétaux liés à l'illettrisme et découvrir des solutions innovantes et inclusives pour le faire reculer. Accompagnez-moi dans cette exploration à la rencontre d'experts, de personnalités publiques engagées et de personnes sorties de l'illettrisme. Près d'un illettré sur deux a un emploi. Mais à quoi peut bien ressembler leur vie professionnelle ? Où travaillent-ils ? Et comment font-ils au quotidien pour masquer leurs difficultés ? Que ressentent-ils ? À mon micro, aujourd'hui, deux experts et un cinéaste, soit trois regards croisés sur le monde du travail vécu par les illettrés. Les empêchés, immersion au pays de l'illettrisme, épisode 4. Les empêchés, produit par Prisma Media, avec le soutien du programme Write Your Future, Écrire Votre Avenir de Lancôme. Extrait du premier livre d'Aline Le Guluche, J'ai appris à lire à 50 ans, où elle confie ses difficultés au service restauration de l'hôpital où elle travaille.
Je profite des jours où les enfants sont à l'école et que je suis seule à la maison, pour m'entraîner à lire et écrire tous les mots que je rencontre sur les feuilles de fabrication. Tomates, betteraves, yaourts, sucrés, sans sucre, salade de fruits, fromage blanc, une vraie liste de courses. Je dois m'approprier tous ces mots pour que personne ne s'aperçoive de mes lacunes. Sinon, je risque d'être renvoyée. J'évite les problèmes, et surtout j'essaie de ne pas me laisser envahir par les craintes et le doute. Je n'arrive jamais à être sûre de ce que j'écris, car je doute de ma mémoire que j'utilise comme un appareil photo, parce que je connais mes limites. Et si quelqu'un à côté de moi me demande ce qui est écrit, rien ne sort de ma bouche. Mes jambes tremblent et mon visage rougit. Alors je reste dans ma zone de sécurité. J'apprends ces mots par cœur, le mieux possible.
Pour avoir une vision plus globale du vécu des illettrés au travail, je décide d'interviewer Hervé Fernandez. Juriste de formation, un temps chargé de promouvoir l'accès à la lecture et l'écriture au sein du ministère du Travail, il est aujourd'hui directeur général de l'ANELSI, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. L'ANELSI œuvre depuis l'an 2000 pour animer et coordonner au niveau national les actions de prévention et de lutte contre l'illettrisme. Pour commencer, quelles sont les tranches d'âge les plus touchées, Hervé ?
Plus de la moitié des personnes confrontées à l'illettrisme ont plus de 45 ans. On sait qu'on peut prévenir le problème en agissant très tôt, dès le plus jeune âge, au moment où les premiers apprentissages vont s'installer. On sait qu'on doit travailler pour que ces apprentissages s'installent dans la durée. Si on ne le fait pas, eh bien, ils s'effritent et on perd cette capacité à lire et écrire. On peut devenir ou tomber en situation d'illettrisme.
Et moi qui pensais que lire et écrire, ça ne pouvait pas se désapprendre. Et y a-t-il de nombreux secteurs professionnels touchés ? Lesquels, par exemple ?
Oui, il y a beaucoup de secteurs professionnels qui sont confrontés à l'illettrisme. Avec l'enquête menée par l'INSEE, On arrive à savoir les secteurs les plus concernés, bien sûr. Alors, on peut citer la construction, la logistique, le transport, l'agroalimentaire, la sécurité, la propreté, des secteurs avec beaucoup de main-d'œuvre qui peuvent être concernés par le problème de l'illettrisme. On a une indication, les taux sont plus élevés que la moyenne nationale dans ces secteurs-là. La moyenne, c'est 7%. On peut atteindre 10-14% selon les secteurs.
Jusqu'à 14% de travailleurs illettrés. Impressionnant. Dans leur métier manuel, où autrefois il n'était pas nécessaire de savoir lire et écrire, les pratiques ont changé. C'est ce que me disait aussi Aurore Ponsonnet, formatrice en orthographe pour adultes.
Un exemple me vient en tête, mais dans une formation, il y avait une personne d'une cinquantaine d'années. Et je me dis, il a attendu longtemps avant de faire une formation sur ce sujet. Et il écrivait et il tremblait comme une feuille. Il était avec son stylo, je voyais sa main, enfin ça m'a fait beaucoup de peine hein, quand j'ai vu ça. Il tremblait pour écrire trois mots. Il avait extrêmement peur que je vienne derrière lui et que limite je lui tape sur les doigts. Enfin c'était quelque chose de... c'était limite phobique hein, chez lui. Et puis il m'explique que dans son métier, il était manutentionnaire et que pendant toute sa carrière, il a réussi à éviter les cris. Parce que il y a énormément de métiers maintenant où on demande à l'employé d'écrire, notamment avec un ordinateur, chose qu'il n'avait pas avant parce qu'il suffisait d'une transmission orale. On téléphonait, on expliquait à celui qui arrivait derrière ce qu'on avait fait. Et là, maintenant, on leur dit, voilà, vous avez un ordinateur, vous avez un smartphone et maintenant, vous écrivez tout. Il faut laisser une trace écrite de tout. Et ça le mettait dans tous ses états.
Je demande à Hervé Fernandez s'il peut me donner quelques exemples de situations particulièrement problématiques pour les illettrés au travail.
Il y a une situation d'empêchement très, très simple, très basique. C'est par exemple l'accès à ces bulletins de salaire depuis plusieurs mois. On ne reçoit plus ces bulletins de paye par la poste, où ils ne sont plus remis aux salariés de la main à la main. Ils sont disponibles sur des plateformes numériques. Donc pour y accéder, il faut pouvoir disposer du matériel. Et quand on a l'accès Internet, du login, du mot de passe. Donc c'est toute une série de démarches qui ne sont pas accessibles par certains salariés.
Arrive dans notre discussion un mot jamais entendu auparavant, l'électronisme. La contraction d'illettrisme et d'électronique pour parler de ce cumul d'incapacités.
L'électronisme, ça caractérise la situation des personnes qui ne peuvent pas avoir un usage courant du numérique, un usage de base pour accomplir des démarches, pour envoyer des messages, pour comprendre des messages aussi. Et donc parce qu'elles ne maîtrisent pas ces usages courants et parce qu'elles ne maîtrisent pas plus la lecture et l'écriture. On voit bien comment des personnes qui ont des difficultés avec le numérique peuvent aussi avoir des difficultés avec la lecture et l'écriture. Et pour elles, c'est un double empêchement, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas pouvoir accomplir des démarches, faire valoir leurs droits, acheter en ligne, comprendre des contrats d'une société de crédit, par exemple, ou un abonnement téléphonique en lisant le contrat, parce qu'elles ne maîtrisent pas plus la lecture, l'écriture.
Nous retrouvons Aurore Ponsonnet, qui témoigne des profils très peu lettrés qu'elle découvre lors de ses missions en entreprise. Elle raconte.
Il y a des personnes qui ont été déscolarisées très jeunes, qui me disent d'elles-mêmes « je ne lis pas du tout ». Dans mon travail, je n'ai jamais eu besoin d'écrire. Je n'ai pas entretenu l'écrit. Donc, quand elles écrivent, là, pendant la formation, tout d'un coup, elles se retrouvent avec un stylo et un carnet, ce qui ne leur est pas arrivé depuis très, très, très longtemps. Eh bien, je constate des difficultés énormes et l'écriture peut être vraiment... je dirais d'un niveau CE2. Ça m'est arrivé de rencontrer des adultes qui écrivaient comme des enfants qui sont en train d'acquérir l'orthographe et l'écriture.
Sur les conseils d'Hervé Fernandez, je découvre un film télé intitulé Illettré, réalisé par Jean-Pierre Améris en 2018. Il raconte avec beaucoup de sensibilité l'histoire d'un jeune homme ouvrier d'usine qui, à cause de son illettrisme, se blesse gravement au travail. Il n'en fallait pas plus pour que je demande au réalisateur une interview afin de recueillir son opinion de citoyen et d'artiste sur le sujet de l'illettrisme. Contacté par email, il répond avec enthousiasme à ma demande. Jean-Pierre Améris est né à Lyon en 1961 dans un milieu modeste. Dès l'adolescence, avec sa taille peu commune, il mesure 2 mètres, il peine à trouver sa place, au sens propre comme au sens figuré. Sa grande timidité et l'ambiance de tension qui règne chez ses parents ne sont pas pour améliorer sa phobie sociale. Le cinéma devient alors le lieu du réconfort, de l'ouverture sur le monde, de l'émerveillement. C'est à cette période qu'il se dit « Un jour, moi aussi, je ferai des films ». Puis, c'est la découverte d'un cinéaste qui jouera un rôle majeur dans sa vocation.
Il y a un cinéaste qui m'a vraiment marqué lorsque j'ai découvert ses films à l'adolescence, c'est François Truffaut. Et c'est pas complètement sans lien, justement, avec le fait de faire plus tard, bien plus tard, Illettré ou Marie Hortin. C'est parce que ce qui me touchait chez lui, c'est souvent des personnages un peu hors la société et qui cherchaient à trouver leur place, sans parler de L'enfant sauvage, qui est un des plus beaux films. Vous savez, cette histoire d'un enfant sauvage trouvé dans les bois et auquel on va essayer d'apprendre le langage, la communication. Et je sais pas, ça m'avait touché profondément et je crois que c'est quelque chose qui reste de chez Truffaut, ce thème de l'apprentissage.
Depuis, le réalisateur a fait une 20aine de films. Marie Hortin, Une famille à louer, Les folies fermières et l'inoubliable Les émotifs anonymes, pour ne citer que cela. Une filmographie aux accents aussi sensibles que son auteur. Mais qu'est-ce qui lui a donné envie de réaliser le film Illettré ? Il me répond que c'est dans le droit fil de tout ce qu'il a toujours fait avec sa caméra. Raconter les vulnérables, les isolés, ce qu'on oublie ou qu'on méprise.
C'est donner une visibilité à ces gens. Et bien sûr, les illettrés font partie, et pourtant Dieu sait si malheureusement ils sont nombreux, font partie de ces gens mis de côté, qui se mettent de côté. Et avec ce film-là en particulier, je voulais les mettre au centre, leur donner une représentation.
La situation d'enfermement que vivent les illettrés en particulier le touche.
Je crois que l'illettrisme, c'est vraiment un handicap, hein, et sont enfermés quoi, en raison de leur handicap. C'est vraiment ce que j'aime filmer, hein. C'est des gens enfermés et qui vont apprendre à se libérer. J'ai fait aussi un film qui s'appelle Marie Hortin, une histoire vraie d'une jeune fille née sourde et aveugle, hein, et qu'une religieuse fin 19e siècle a aidée à s'ouvrir et à communiquer par la langue des signes dans la main, qu'on utilise toujours avec les sourds et aveugles. Donc il y a toujours cette recherche-là. Et je sentais, avec mes lectures, que le personnage de l'illettré avait à voir avec cela, quoi, hein. Un handicap, une honte, une difficulté à faire partie de la société. Le déclic est venu de la lecture du roman de Cécile Ladjali, Illettré, qui raconte donc l'histoire d'un jeune homme qui va avoir un accident du travail parce qu'un matin, on le met sur une machine qu'il ne connaît pas. Il ment, comme d'habitude, il dit non, pas de problème. Et bien sûr, il ne peut pas lire les consignes de sécurité de cette nouvelle machine. Et il a un accident du travail qui lui coupe quasiment deux doigts. Et à partir de là, il va être obligé de révéler son illettrisme. Il va vraiment chuter, ce garçon. Il va manquer, perdre aussi une histoire d'amour à cause de son illettrisme. Et peu à peu, se reconstruire et aller vers l'apprentissage.
Jean-Pierre Améris s'étonne de leur capacité à se cacher.
C'est absolument fascinant. En effet, beaucoup d'hommes et de femmes illettrés travaillent, donnent le change. Et sont bons dans leur métier. Enfin, évidemment, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, hein. Ça n'a rien à voir avec les capacités. Mais en revanche, il suffit d'un « tu sais pas lire ou quoi hein, », de cette expression-là qui vous renvoie, mais comme quand on est enfant aussi, hein, quelque chose de très enfantin, de très profondément enfantin. C'est, moi, je me souviens des « mais t'es bête ou quoi ?» lancés par le père qui peuvent vous blesser quoi hein, quand même et durablement. Ça renvoie toujours à la bêtise quoi, hein, au manque d'intelligence.
Aidé de la trame du roman de Cécile Ladjali, intitulé également Illettré, et du travail scénaristique fait avec sa co-auteure Muriel Magellan, il dessine l'histoire de ce jeune illettré ouvrier en usine. Passé ce premier moment de travail à la table, il a fallu aller à la rencontre du réel. Jean-Pierre Améris décrit d'ailleurs ces films comme des fictions nourries de réalité.
On a contacté donc toutes les agences de Marseille, donc où il s'agissait de tourner le film. On a contacté les associations. Et c'est vrai que j'ai été très bien reçu à l'ACPM, une association donc, qui donne des cours, qui aide les personnes en situation d'illettrisme. Et j'ai simplement dit, voilà, mais c'est toujours ma méthode. Et est-ce que vous seriez d'accord pour que je sois là pendant quelques temps à vos côtés pour observer, discuter? Et ça a été le cas. Et en effet, j'ai appris beaucoup de choses. Je pensais, moi, qu'au départ, c'était des cours plus formel, on apprend à lire et écrire. Non, c'est beaucoup plus ludique que ça, quoi. C'est des gens, souvent, des hommes et des femmes qui ont très mal vécu l'école. L'idée d'y retourner, quoi, c'est terrible. Ça a été une humiliation pour eux. Et donc, il vaut mieux recommencer, en effet, par des jeux, des images, quelque chose de léger qui permet d'approcher l'apprentissage.
Cet entretien avec le cinéaste se termine sur des mots forts. Il fait du cinéma pour faire du bien aux gens, me dit-il. Voilà pourquoi dans ses films, ses personnages, malgré les difficultés et les coups du sort, s'en sortent et vont vers la vie. Tout comme Anthony, finalement, ex-illettré plein d'enthousiasme qui nous parle de sa renaissance au travail depuis qu'il sait écrire.
Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, je demandais toujours à mes collègues. Et là, aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que j'arrive maintenant à écrire sous l'ordinateur. J'arrive mieux à écrire sur l'ordinateur avec des fautes, j'arrive à aller sur l'ordinateur, j'arrive à mieux comprendre ce qu'on me dicte à écrire. Il faut du temps, mais ça va venir. Je suis confiant.
Une véritable bouffée d'espoir. Nous voici arrivés au terme du 4e épisode du podcast Les Empêchés, produit par Prisma Media, avec le soutien du programme caritatif international Write Your Future, Écrire Votre Avenir de Lancôme. Retrouvez-nous dès la semaine prochaine pour le 5e et dernier épisode de notre série. Quelles perspectives pour l'avenir de l'illettrisme en France? Quels programmes et initiatives peuvent faire la différence? Et l'illettrisme au niveau international, ça donne quoi? Les Empêchés, immersion au pays de l'illettrisme, un podcast Prisma Média écrit et enregistré par Marielle Lieberclair. Extrait du livre d'Aline Le Guluche, lu par Anne Garus. Responsable éditoriale, Ambre Rouvière. Réalisation technique, Lucas Wibo et Julien Louette. Coordination, Jeanne Raymond.